Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère. Aujourd'hui, mercredi 22 mars, Livres et Amis avec Dominique et Nadine et aussi Camille à la technique. Nous vous avons lu le 8 mars MeToo Théâtre pour soutenir les droits et les combats des femmes. Et je vous avais parlé d'exotisme en conclusion de l'émission. Alors c'est vrai que la semaine dernière, alors que nous étions en grève et en manifestation, vous êtes allés en Turquie retrouver Ahmet Altan derrière les barreaux de sa prison. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus au sud, jusqu'à la Côte d'Ivoire, avec Amadou Kourouma et son dernier livre « Quand on refuse, on dit non ». Publié juste après le décès de l'auteur, en fait, en 2004. Alors, ça fait bien le lien avec le « non, c'est non » des femmes qui refusent les violences et avec le « non » des travailleurs, les travailleurs qui, en ce moment, disent non, non à la réforme des retraites. Alors, en attendant la grande grève et manifestation de demain, hein, demain matin à 10h30 au Vieux-Port, eh bien, voyons comment Amadou Kourouma, lui aussi, dit « non ». Non à la violence, non à la guerre. Quand on refuse, on dit non. Amadou Kourouma, il est ivoirien de naissance, mais aussi guinéen par ses origines, malien, algérien, camerounais, togolais par les pays où il a résidé dans ses multiples exils. Amadou Kourouma, grand panafricain donc, qui s'est opposé aussi bien au régime colonial français dans sa jeunesse qu'au régime bien peu démocratique des indépendances africaines dans son âge adulte. Amadou Kourouma, il est né en 1927 et après des études secondaires un petit peu chaotiques et des rébellions successives, il a été envoyé par le pouvoir colonial français vers l'Indochine pour faire la guerre à ses frères asiatiques comme tirailleurs sénégalais. Puisque à l'époque, les Africains, contraints d'aller combattre dans l'armée française, souvent à titre disciplinaire, étaient tous, comme en 1914 et 1918 d'ailleurs, considérés comme sénégalais. De retour en France, il fait des études de mathématiques et de finances, puis il rejoint la Côte d'Ivoire indépendante, mais bien vite, il est en opposition avec le président Oufouet Boigny. Oufouet Boigny le menace de la prison et le contraint à l'exil. Et Oufouet Boigny, eh bien, on le retrouvera tout à l'heure dans notre lecture de « Quand on refuse, on dit non ». Amadou Kourouma fait ensuite l'expérience de la vie dans différents pays africains nouvellement indépendants et il pose un regard très critique sur les gouvernements des indépendances. Il nourrit son premier roman, « Les soleils des indépendances », de cette analyse critique. « Les soleils des indépendances » s'est publié en 1970 et c'est devenu très vite un classique de la littérature africaine francophone. Et ensuite, Amadou Kourouma publie « En attendant le vote des bêtes sauvages », puis « Allah n'est pas obligé ». Et « Allah n'est pas obligé » lui apporte une reconnaissance absolument internationale. C'est l'itinéraire dans l'Afrique de l'Ouest, bouleversé par la guerre, d'un enfant soldat, le petit Biraïma. Dans « Quand on refuse, on dit non », le lecteur retrouve Biraïma au cœur de la guerre civile où se trouve plongée la Côte d'Ivoire en 2002. Nous allons donc commencer par écouter Biraïma, le récit de sa vie dans une ville de Côte d'Ivoire, Daoula, qu'il va ensuite quitter. Mais donc, écoutons-le.
Quand j'ai su que la guerre tribale avait atterri en Côte d'Ivoire, j'ai tout laissé tomber et je suis allée au maquis, bar mal fréquenté, pour me défouler, me libérer des contraintes, des tensions. Je me suis défoncée et cuitée, droguée et saoulée. En chancelant et en chantant, je suis rentrée à la maison. En arrivant, j'ai crié « Oh !» plusieurs fois à l'intention de Sita, la femme de mon cousin. Je m'en fous, la guerre tribale est là. Je suis allée dans ma chambre et j'ai sombré dans le sommeil. À mon réveil, tout le monde était autour de moi. Il y avait Sita, ma tutrice, la femme de mon cousin, ses enfants, les enfants des cousins et d'autres personnes. Tous me regardaient comme une bête sauvage tirée du fond de la brousse par un chasseur. Et Sita m'a demandé « Petit Biraïma, qu'as-tu fait? Est-ce que c'est bien ce que tu as fait ?» J'ai répliqué « je m'en fous, la guerre tribale est arrivée, en Côte d'Ivoire. » J'ai mis le pied dans le plat pour provoquer Sita. Je leur ai déclaré tout haut, à eux qui étaient RDR, Dioula, musulmans nordistes et opposants. Le président Gbagbo a beau être Bété, Bété est le nom d'une tribu de la profonde forêt de la Côte d'Ivoire. C'est un type bien. Le président Gbagbo est le seul à avoir été un vrai garçon sous Oufouette. Le seul à avoir eu du solide entre les jambes. Il a été le seul opposant à Oufouette. Ces déclarations ont rendu folle Sita. Elle m'a infligé une bonne gifle et des coups de poing bien appuyés. À chaque coup de poing, je répondais. Gbagbo, le président, est un type bien. Pan. C'est un bété, mais un type bien. Pan. Un type bien. Et ainsi de suite, les coups de Sita et mes répliques ont duré près de 5 minutes. Entre-temps, mon cousin est arrivé. En entendant mes répliques, il a été écœuré. Écœuré signifie, d'après mon dictionnaire, dégoûté. Il a ronchonné, il a rebroussé chemin et il est parti vers sa clinique. Mais avant d'entrer dans la guerre tribale en Côte d'Ivoire, suite ininterrompue de massacres et de charniers barbares, je vais vous présenter mon pédigré.
Alors, Biraïma.
C'est toujours moi, petit Biraïma, qui vous ai parlé dans « Allah n'est pas obligé ». Il y a 4 ou 6 mois, je ne sais exactement combien, j'ai quitté le Libéria barbare de Charles Taylor, mon dictateur criminel et inamovible. Je me présente à ceux qui ne m'ont pas rencontré dans « Allah n'est pas obligé ». Je suis orphelin de père et mère. Je suis mal poli comme la barbiche d'un bouc. J'emploie des gros mots. Je parle mal, très mal, le français. Je parle français de vrai petit nègre d'un enfant de la rue d'Abidjan. Je parle français d'un gros cuisinier moussi d'Abidjan. Voilà, et je fais l'enfant soldat au Libéria et en Sierra Leone. Je recherchais ma tante dans ces foutus pays. Elle est morte et enterrée dans ce bordel de Libéria, là-bas. Je pleurerai toujours ma tante, une bonne musulmane, qui me cuisait toujours du riz à sauce graine avec gombos.
Eh oui, le riz à sauce graine, c'est le riz aux arachides.
J'ai été recueillie par mon cousin Mamadou Doumbia, docteur à Daloa, en Côte d'Ivoire. Daloa est une ville en pleine terre Bété. C'est la capitale du pays Bété. Les Bété, c'est une ethnie, une tribu ivoirienne de la forêt profonde dont nous parlerons beaucoup. Les Bété sont fiers d'avoir plein d'ivoirité. Ils parlent toujours de leur ivoirité. Les Bété n'aiment pas les Dioula, comme moi, parce que nous sommes opportunistes, versatiles et obséquieux envers Allah, avec les saintes prières journalières. Et nous, les Dioula, sommes toujours en train d'acheter des fausses cartes d'identité pour avoir et obtenir l'ivoirité. Nous sommes toujours en train de réclamer les terres que les Bété nous avaient vendues pendant les périodes où la terre appartenait à ceux qui la cultivaient. La période bénie du dictateur roublard, sentencieux et multimilliardaire Oufouette Boigny. Les Bété ont commencé à chasser les Dioula et à reprendre les terres du pays Bété quand Gbagbo est monté au pouvoir par les élections contestées. Au cours de ces élections, la gendarmerie est allée chercher donc les Dioula en ville et les a fusillés comme des lapins. On les a balancés dans un trou béant creusé sur place et on a appelé cela le charnier de Yopougon. Le fameux charnier de Yopougon. Le charnier de Yopougon a été le premier. Beaucoup de charniers allaient suivre dans la guerre tribale et barbare de la Côte d'Ivoire. Malgré de nombreux charniers, les Dioula sont toujours nombreux en Côte d'Ivoire. Ils pullulent comme des cancrelats, des sauterelles, à Daoloa et dans tout le pays Bété environnant. J'ai déjà dit que mon cousin Mamadou Doumbia m'avait mis comme apprenti chauffeur chez Fofana, un Dioula comme lui et moi. Il m'a placé à l'école coranique chez Aïdara, un imam pour que j'apprenne les versets du Coran. Les Dioula ou Malinké n'aiment pas les bêtés. Ils se moquent d'eux. Ils les trouvent très violents et très grégaires. Moi, petit Biraïma, j'ai déjà dit que je suis un Dioula, comme mon patron Fofana et comme mon maître Aïdara. Fofana est un Dioula qui possède 4 bagas.
Ouais, ce sont des camionnettes.
Il est marié à 4 femmes. La dernière est la préférée, elle est bien instruite. Elle a une licence et enseigne l'anglais dans un lycée de la ville. Fofana courbe régulièrement les 5 prières par jour et jeûne pendant tout le mois de Ramadan. Mon maître Aïdara est un imam. Il est obséquieux envers Allah. Il le prie et dit le chapelet tout le temps. Il jeûne pendant tout le mois de carême et 3 jours par semaine les autres mois de l'année. Il enseigne l'arabe et le français dans un établissement appelé une médersa. Voilà ce que je peux dire sur moi et sur mon environnement. Je commençais à savoir bien aboyer les destinations Abga, à bien réciter les versets du Coran, et la clinique de mon cousin Mamadou Doumbia marchait à merveille lorsque, dans la nuit, les rebelles du nord, pleins de Dioula, ont attaqué Daloa, paisible. Les premières heures, j'étais content, très content. La guerre tribale était là et bien là, comme au Libéria et en Sierra Leone. Ils étaient sortis de partout. C'était en majorité des Dioula, des chasseurs traditionnels, les fameux dozo qu'on appelle au Sierra Leone les camajors. Ces chasseurs étaient bardés de nombreux gris-gris, de nombreuses amulettes, au cou et au bras. Les loyalistes, les soldats de Gbagbo, qui défendaient la ville, ont tiré plusieurs fois sur les assaillants sans parvenir à les tuer. Les balles ne les pénétraient pas à cause de leur gris-gris et de leur amulette. Voilà et... En fait, les soldats loyalistes qui ne voulaient plus mourir pour le régime du président Gbagbo ont pris prétexte de l'invincibilité supposée ou réelle des assaillants pour se débarrasser de leurs armes et décamper à toutes jambes. Ils se sont débarrassés de leurs armes et aussi de leur tenue militaire et ils se sont réfugiés dans la forêt. Dans la forêt, ils se sont bien cachés. Les rebelles étaient maîtres de la ville sans coup rire. Ils ont rassemblé les gendarmes qui n'avaient pas eu le temps de fuir. Ils les ont mitraillés comme des bêtes sauvages. Ils ont jeté les corps dans un charnier.
Oui, donc les gendarmes de Daloa ont été massacrés et les cadavres jetés dans un charnier. Parce que ce sont d'autres gendarmes, le 26 octobre 2000, à Abidjan, qui ont enlevé et rassemblé les Dioula, puis les ont mitraillés et ont jeté leur corps dans un charnier géant à Yopougon. Vous savez, Yopougon est une cité dortoir au nord de Abidjan. Donc, les Dioula de la ville de Daloa, après la victoire des rebelles, étaient contents. Ils croyaient avoir définitivement gagné. Et comme chaque fois qu'ils sont contents, ils ont courbé des prières. Les imams disaient des chapelets et faisaient les obséquieuses courbettes devant Allah. Ils priaient et chantaient autour des mosquées. Une grande fête de victoire. Les Dioula, les musulmans, ignoraient que quelque chose qui n'a pas de dents allait les mordre vigoureusement. C'est un proverbe africain, hein. Ça signifie que quelque chose de terrible les attend. En effet, quand le président Gbagbo a vu que les Dioula fêtaient leur victoire à Daloa, capitale du pays bété, il est entré dans une colère rageuse. Il a crié « Merde, merde, merde !» parce que le président Gbagbo lui-même est d'ethnie bété. Il a mis tout le budget de la Côte d'Ivoire sur la table et avec ça, il a recruté des mercenaires à prix d'or. Et évidemment, le président Gbagbo a bien fait. C'était la seule chose qu'il lui restait à faire. Il a eu raison de faire ça parce que les militaires, soldats, loyalistes, eux, ils étaient poltrons comme une bouillie de sorgho. Mais les loyalistes, avec les mercenaires blancs à leur tête, ont attaqué à nouveau les rebelles. Ils les ont foutus hors de la ville de Daloa parce que les mercenaires, eux, ne croyaient pas aux gris-gris et aux amulettes des chasseurs. Donc, les loyalistes et les mercenaires étaient maîtres de la ville. Ils ont fêté leur victoire en tirant dans les rues pour terroriser la population. Ils étaient accompagnés de jeunes militants bêtés du parti du président Gbagbo, des supplétifs, des jeunes patriotes. C'est alors, d'abord, les mains de ces militants qui ont tenu la ville de Daloa. On leur a laissé la ville de Daloa. Et ces jeunes militants, ils ont tiré de leur maison, un à un, tous les doulas valides. Ils ont fait main basse sur tout ce qu'ils pouvaient emporter. Et ils n'ont pas arrêté, bien sûr, les vieillards, les femmes ou les enfants, mais ils ont emmené tous les hommes. Quand les doulas ont su qu'ils risquaient d'être tous arrêtés un à un et d'être tous sûrement zigouillés un à un en catimini, ils se sont révoltés. Au moins, il fallait que leur massacre soit public. Il fallait que la presse internationale assiste à leur arrestation et éventuellement leur exécution. Ils se sont donné le mot. Ils sont tous sortis de leur maison en même temps. Au lieu de sortir en catimini de leur cachette, ils ont envahi les rues pour rejoindre les mosquées. Et les rues de la ville de Daloa sont devenues aussi blanches que des feuilles blanches, blanches de djoula en boubou blanc. Tous marchaient vers la mosquée centrale. Ceux qui parvenaient à rejoindre la mosquée étaient ceux qui avaient échappé à l'arrestation. Et les gens arrêtés avant la marche, sur la mosquée, eh ben, ils ont tous été emmenés hors de la ville. Donc, quand ceux-là ont été regroupés, on a déchiré leur carte d'identité de l'ivoirité. Évidemment, on a fait un bûcher de ces cartes d'identité. Et les militaires loyalistes et les jeunes militants ont apporté et donné des pioches aux djoulas qui étaient là, valides, aux imams, à toutes les personnes arrêtées. Et ils leur ont fait creuser un grand trou béant. Et au bord du trou profond et béant, ils les ont fait aligner, ils les ont mitraillés sans pitié comme des bêtes sauvages. Et ils ont fait de leurs cadavres un immense charnier. Voilà, c'est l'histoire, bien sûr, des massacres alternés entre les troupes de Gbagbo et les troupes rebelles. Biraïma nous raconte ça avec son regard de jeune, mais bien sûr, il sait ce que c'est que les massacres et il en parle, on pourrait dire, de façon experte. J'ai déjà dit que mon cousin Mamadou Doumbia était un docteur, un chirurgien. Il avait une clinique adjointe à sa villa d'habitation à Daloa. Il était aussi un grand chef, un cadre du parti d'opposition qui dirigeait les djoulas du Nord. Quand les loyalistes, avec les mercenaires, ont conquis la ville de Daloa, mon cousin était dans sa clinique en train d'opérer des blessés. Les escadrons de la mort qui le recherchaient sont venus lui mettre la main au collet, l'ont enlevé et l'ont emmené en 4x4. Ils ont pillé la villa et la clinique. Ils ont tout embarqué, sauf les blessés, sur leur lit. Parce que les blessés, et d'ailleurs les libres des blessés, ne se vendent pas, ne rapportent rien du tout. Les militants bêtés ont ensuite incendié la villa, mais pas la clinique, par respect pour les malades. Et moi, petit Biraïma, quand j'ai vu ça, j'ai couru, j'ai fui comme un chien surpris en train de voler le savon noir de la ménagère, comme un homme qui a provoqué un essaim et qui détale devant les abeilles. J'ai couru à perdre haleine, j'ai couru vers la forêt pour m'y cacher. Mais là, brusquement, je suis tombée face à un barrage de loyalistes, avec des militants armés jusqu'aux dents. J'étais tombée dans un tractard, il m'était impossible de rebrousser chemin. Ils m'ont arrêté, ils m'ont conduit dans la forêt, loin de la route, et là j'ai retrouvé beaucoup d'autres djoulas comme moi qui avaient été arrêtés, assis sous la garde des soldats et des militants de Gbagbo armés. Nous étions tous assis en rond, et il y avait de nombreux djoulas terrorisés qui arrivaient au fur et à mesure sous la garde d'autres jeunes militants. On les obligeait à s'asseoir aussi, comme nous. Nous étions une foule de djoulas tremblant de peur, comme des feuilles, courbant nos prières, mais attendant la mort. Et moi, petit Biraïma, j'ai pensé à ma mère, à ma grand-tante, à ma grand-mère, à toutes les bonnes journées que j'avais vécues, au bon riz sauce graines que ma grand-mère me faisait. Enfin, brusquement, nous avons entendu des éclats de voix, des cris et même des coups de fusil. Cela venait de plus loin dans la forêt. Voilà, et vous savez, les djoulas disent ce proverbe. Quand 5 filous se chaparent de 2 œufs dans la basse-cour, laisse-les partir avec leur butin, tu auras de leurs nouvelles au moment du partage. Eh bien, c'était ça. Le partage de l'argent recueilli dans nos portefeuilles avait opposé les chefs. Dès que le coup de fusil avait éclaté, les militants qui nous surveillaient étaient tous foncés vers le lieu d'où c'était parti. Ils ne voulaient pas rater le partage. Et donc, nous, qui étions prêts à creuser un nouveau charnier, nous sommes retrouvés sans garde. Nous avons jeté les outils, ceux qui étaient assis se sont levés et nous sommes dispersés comme les oiseaux. Chacun est parti dans son sens, des supplétifs ont tiré, mais bon, nous courions. Et j'ai continué ma course folle vers la ville, sans regarder derrière, sans regarder à gauche ni à droite, juste droit devant moi. Et je suis tombée sur la concession de mon maître Haïdara, qui se trouvait par là, sur la route de Man. J'ai évité la salle où nous apprenions le Coran, au milieu de la cour. J'ai foncé vers l'appartement d'une femme en criant « Cachez-moi, cachez-moi, je suis poursuivie par les militaires !» On m'a conduit dans l'appartement de la première femme et introduit dans sa chambre à coucher. Je me suis roulée sous un lit et les femmes ont fait descendre les draps jusqu'au sol pour me dissimuler. Elles ont fermé la chambre à double tour. Et voilà, j'étais là, sous le lit. Qu'allait-il se passer ?
Le soir, la chasse à l'homme, le bordel avait cessé dans la ville. Il n'y avait plus de soldats, ni de militants, ni de jeunes bêtés dans la rue. Fanta est entrée dans la chambre avec un gobelet d'eau. Quand j'ai constaté que c'était Fanta qu'on m'avait envoyé, j'ai tout de suite tout oublié, même les soldats et les jeunes militants bêtés. Elle m'a demandé de me dégager pour boire, j'ai roulé à nouveau et je me suis redressée. Je me suis assis et j'ai bu le gobelet d'eau. Elle en a apporté deux autres qui ont été vite ingurgités. C'est une fois abreuvée que j'ai pu lever les yeux et observer Fanta. Même les yeux gonflés par une journée de pleurs, elle paraissait belle comme un masque gourou. Les gourous sont une ethnie de Côte d'Ivoire. Quand c'est une communauté de Toubab, on dit une civilisation. Mais quand c'est des Noirs, des indigènes, on dit tribu ou ethnie. Les sculpteurs gourous font de très beaux masques pour danser. Même dans le malheur, Fanta paraissait belle comme un masque gourou. Et quand j'ai fini de boire et qu'elle m'a demandé le gobelet, je l'ai tenu fort de peur qu'elle s'en saisisse et reparte dehors. Elle m'a parlé malgré la rage au cœur. Elle m'a appris que le couvre-feu était institué à partir de 18 heures. Elle m'a appris aussi l'enlèvement de son père et de son frère par les escadrons de la mort et certainement leur exécution. Allah en Côte d'Ivoire a cessé d'aimer ceux qui sont obséquieux envers lui, qui exagèrent les masques, les marques de politesse ou d'empressement par servilité ou par hypocrisie. C'est pourquoi il a fait en sorte que les militants bêtés détestent les imams. Chaque fois que les escadrons de la mort voient un imam, ils l'assassinent tout de suite. Youssouf Haïdara était l'imam de la troisième mosquée de Daloa, la mosquée de l'est de la ville. Il était le père de Fanta. Il était le recteur d'un cours d'arabe, une médersa à laquelle mon cousin m'avait fait inscrire. La médersa, c'était bien sûr pour la formation religieuse, mais aussi pour préparer le certificat d'études. La préparation au certificat d'études par des cours du soir était assurée par Fanta et ses camarades du lycée. Il le faisait dans le cadre d'une association bénévole d'alphabétisation d'adultes. Fanta nous enseignait le français, l'histoire et la géographie. Je suivais ses cours deux fois par semaine, entre 20 et 23 heures. Évidemment, je buvais ce que Fanta enseignait. Voilà, et elle était belle, comme pas permis. Je commençais à mieux réciter les versets du Coran pour ma prière. Ma prière commençait à être conforme à la recommandation du Coran, et avec tout ça, je n'arrivais pas à avoir de la chance, c'est-à-dire à être encore aimée d'Allah. Mais je ne désespère pas. Youssouf me présentait à tous ses amis qui visitaient la madersa. Voilà Biraïma, un ancien enfant soldat qui a fait la guerre du Libéria. Il buvait, fumait, se droguait. Maintenant, la grâce d'Allah est descendue sur lui. Il a tout cessé, disait-il en souriant. Youssouf m'aimait comme l'enfant de sa préférée. Mais moi, c'est sa fille que j'admirais, que j'aimais à la folie. J'étais dingue d'elle. Je me suis permis plusieurs fois de le lui avouer. Fanta, je t'aime à la folie. Avec le sourire de sa grâce naturelle, elle m'a toujours répondu. Moi, je t'aime aussi, mais comme un jeune frère. Cela ne me suffisait pas, parce qu'elle était trop belle. Je peux paraître un garçon gentil, mais en réalité, je suis un dur des durs. J'ai commencé à compter toutes mes aventures de « Alain n'est pas obligé », mais elle ne m'a pas laissé terminer. Elle revenait sur le seul point qui l'intéressait. « Biraïma, tu sais utiliser le Kalachnikov ? Tu sais tuer comme les militants bêtés ?» Donc, pour un Kalach, tu peux accompagner, protéger une personne qui veut aller à Bouaké, dans le nord, en zone rebelle, m'a-t-elle demandé. Je me suis lancée dans des envolées. Avec une Kalach, j'accompagnerai, je protégerai. Avec un Kalach, je massacrerai tous les militants, tous les jeunes patriotes, tous les loyalistes. Et joignant le geste à la parole, je me suis levée, le bras gauche représentant le Kalach, tenu par la main droite, j'ai crié « Tac, 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 voilà et fafaro !» Je me révolterai, je refuserai. Au mot « refuserai », elle m'a arrêtée. « Et quand on refuse, on dit non », a affirmé Samori. Je lui ai demandé de répéter les propos de Samori. Samori a affirmé que l'on dit non quand on refuse, quand on ne veut pas. Je suis restée pensif un instant, répétant sans cesse. Non, non, non.
Non, non, quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non, c'est par ces paroles de Samori Touré que se conclut la première grande partie du roman de Amadou Kourouma. Évidemment, cette référence à Samori Touré, elle est très importante, puisqu'il a été le dernier grand chef d'Afrique occidentale, le dernier grand chef à s'opposer à la conquête coloniale des pays comme la France ou la Grande-Bretagne. Il a été en fait à la tête du dernier empire africain dans les 20 dernières années du 19e siècle. Donc, Samori Touré, il avait fédéré des peuples qui sont aujourd'hui en conflit, et c'est la raison pour laquelle c'est un patronage important, ce patronage de Samori Touré, pour l'histoire de Amadou Kourouma, bien sûr. Et la réflexion de Fanta, c'est une citation, donc « Quand on refuse, on dit non », sur laquelle aussi bien Fanta que Biraïma vont s'appuyer pour prendre leur départ, pour quitter Daoula et pour s'en aller vers Bouaké, vers le nord, là où Fanta espère bien trouver d'autres gens de sa famille et d'autres soutiens. Donc, ils vont partir de Daloa, mais pendant qu'ils se préparent à partir de Daloa, nous allons écouter Alpha Blondy. Alpha Blondy, c'est un chanteur ivoirien que vous connaissez, qui fait plutôt des rythmes reggae. Et dans la chanson qui va suivre, qui s'appelle « Multipartisme », eh bien justement, il déplore l'éclatement de toutes ces ethnies et de toutes ces opinions du peuple ivoirien qui s'opposent les unes aux autres.
Parce qu'ils sont mal payés, les ouvriers sont yatra, amoros yatra, Dakar. A Lomé yatra, a Kinshasa yatra, Addis Abeba tra, Dakar. O Abidjan yatra, a Cotonou yatra, a Bamako tra, Dakar.
Tais-toi. Tout le monde est fâché. Donc voilà, multipartisme. Merci Alpha Blondie. Ça souligne en effet l'opposition, comme il dit, tout le monde est fâché des ethnies ivoiriennes entre elles. Et le fait que malheureusement, cette fâcherie, elle va beaucoup plus loin, puisqu'elle va jusqu'au massacre dont Biraïma nous parle. Et Biraïma et son ami Fanta quittent donc leur ville pour s'exiler vers le nord, rejoindre des tribus où ils seront moins en danger.
Le couvre-feu avait été décrété de 18h à 6h du matin dans la ville de criminels et de barbares d'Aloa. Dès sa levée, je faisais pied la route avec Fanta. Je partais, je voyageais avec Fanta. C'était le lendemain matin d'une guerre tribale barbare. Toutes les routes étaient encombrées de réfugiés fuyant la ville comme s'il y avait la peste. La route que nous suivions était noire de réfugiés, pressés comme des diarrhéiques. Ils n'avaient pas, comme nous, attendu la levée du couvre-feu pour se mettre en route. Curieusement, dès la sortie de la ville, nous avons rencontré des réfugiés venant en sens contraire, allant d'où nous venions, Walaé, au nom du miséricordieux. C'était toute la Côte d'Ivoire qui était sur les routes comme une bande de maniants, une grosse fourmi noire qui se disperse quand on met le pied sur la bande. Surtout les femmes, elles portaient toutes sur la tête un plat émaillé avec un seau en plastique. Ça contenait des pagnes empilées et d'autres maigres objets personnels qu'elles n'avaient pu sauver à la hâte. Elles étaient suivies par leurs enfants en bas âge, et certaines avaient au dos, serré fortement dans un pagne, leur dernier bébé. Les bébés piaillaient comme des oiseaux pris au piège. C'était bien fait pour le peuple ivoirien. Ils goûtaient ce que vivait le peuple libérien depuis 5 ans. Les politiciens ivoiriens aidaient ces criminels de voyous, de chefs de guerre libériens. J'ai demandé à Fanta si c'était mérité pour le peuple ivoirien. Elle a répondu. Mon père, ton maître Youssouf, a dit que l'omniprésent au ciel, Allah, n'agit jamais sans raison. Toute épreuve pour un peuple ou bien sert à purger des fautes ou bien signifie la promesse d'un immense bonheur. Ce bonheur immense pour le peuple ivoirien pourrait être simplement la démocratie. La démocratie est l'abaissement des passions, la tolérance de l'autre. Ainsi avait-elle conclu avec un sourire que j'aurais voulu boire. Pour le voyage, Fanta avait attaché ses cheveux avec un mouchoir de tête, un foulard enroulé. Elle portait un boubou très large et des tennis aux pieds. Sous le boubou, elle s'était habillée en garçon avec des culottes courtes. Deux culottes enfilées l'une sur l'autre. Quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'elle avait peur de se faire violer. Une semaine avant que les jeunes militants bêtés l'aient enlevée et zigouillée, Youssouf, le père, avait emmené Fanta, sa fille, au fond de sa chambre. Il lui avait montré un vieux calache qu'il venait d'acquérir auprès des Libériens de passage. « On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce temps et ce pays de fous », avait-il annoncé prophétique et sentencieux. Il avait caché l'arme dans les livres de la grande cantine. Hier soir, Fanta était allé chercher le calache. On a longuement discuté sur le point de savoir qui de nous deux devrait porter l'arme. Elle tenait à cacher l'arme dans son large boubou. « Et comment pourras-tu cacher le calache avec ta chemisette et ta culotte courte ?» me demanda-t-elle. Fermement, je lui répondis à nouveau que je ne serais pas du voyage si je n'avais pas d'armes. Elle s'était arrêtée un instant pour réfléchir et brusquement, elle était repartie vers la maison de son père. Elle en était revenue avec un vieux tafla, un boubou d'une seule pièce avec des manches longues et larges. J'enfilais tout de suite le tafla. Il balayait le sol, mes bras et mes mains se perdaient dans ses manches. Je ne pus m'empêcher de sourire et de lui avouer que c'était ce qu'il me fallait pour cacher l'arme. C'est bien, très bien. Je ressemble ainsi à un petit dioula, ayant fui l'école coranique et demandant l'aumône, avais-je ajouté. En effet, je ressemblais à un malheureux enfant foutu, perdu dans le boubou trop large pour lui. J'inspirais la pitié, un vrai enfant de la rue, à qui tout le monde donnerait l'aumône sans hésiter. Personne ne pouvait soupçonner que je cachais une arme. Je suivais. J'étais collée à Fanta, et dans le flot de réfugiés, elle passait pour ma mère ou ma grande sœur. Nous avons intégré le flot montant vers le nord. Le soleil commençait à s'élever. Le flot de réfugiés s'épaississait. Parmi ceux qui se joignaient à la colonne, il y avait quelques blessés. Ils protégeaient leurs lésions par des morceaux de pagne de différentes couleurs. De temps en temps, au-dessus des colonnes, s'élevaient des pleurs fatigués et qui avaient faim. Voilà, et nous étions maintenant loin de la ville, à peu près à 10 kilomètres. Fanta paraissait rassurée. Ici, en pleine forêt, nous n'avons pas à craindre des escadrons de la mort ou des jeunes militants, FPI, a-t-elle dit. Elle a commencé par m'annoncer quelque chose de merveilleux. Pendant notre voyage, elle allait me faire tout le programme de géographie et d'histoire de la Médersa. J'apprendrai le programme d'histoire et de géographie du CEP, du brevet, du bac. Je serai instruit comme un bachelier. Je connaîtrai la Côte d'Ivoire comme l'intérieur de la case de ma mère. Je comprendrai les raisons et les origines du conflit tribal qui crée des charniers partout en Côte d'Ivoire. Et elle a commencé.
Voilà, donc Beraïma et Fanta vont prendre la route. Et tout le long de la route, Fanta va raconter à Beraïma la géographie, l'histoire et la politique récente de la Côte d'Ivoire. La géographie d'un pays comme la Côte d'Ivoire comprend son milieu naturel, sa population et son économie, me dit Fanta avec son sourire de miel. Elle a commencé à me demander si je savais les raisons pour lesquelles il n'y avait que de très rares descendants d'esclaves noirs ivoiriens aux États-Unis, au Brésil et aux Antilles. Je lui ai répondu que non, que j'étais ignorant comme la queue d'un âne. Je n'avais pas étudié l'orthographe, ni le calcul, ni la géographie, ni l'histoire, et je comptais sur elle pour devenir fortiche dans toutes ces matières savantes. Elle dit alors, en m'apprenant la géographie de la Côte d'Ivoire. La côte ivoirienne était appelée la côte des mâles gens par les marchands d'esclaves à cause de l'inhospitalité des habitants. Les marchands d'esclaves n'osaient pas s'y aventurer de peur de s'y faire manger par des anthropophages. C'était vrai. Les côtiers de l'époque aimaient la chair des blancs. Et en même temps, c'était un prétexte. Ce n'est pas seulement à cause des anthropophages que les marchands de bois d'ébène se sont éloignés des côtes ivoiriennes, mais aussi à cause de l'inaccessibilité des côtes. La Côte d'Ivoire était protégée par l'inaccessibilité de ses côtes. La Côte d'Ivoire est un pays de 322 000 km² derrière une côte quasi inaccessible. Et c'est à cause de l'inaccessibilité des côtes que la colonisation du pays a été si tardive. Dans la partie orientale du littoral, à la frontière du Ghana, s'étendent de vastes lagunes dans lesquelles se déversent les fleuves les plus importants de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette zone lagunaire que se situe Abidjan, la capitale économique, avec 4 millions d'habitants et la presque totalité des industries du pays. Mais alors en fait maintenant, Abidjan c'est 6 millions d'habitants. Continuons. Moi, dit Beraïma, je ne connais pas Abidjan. Je suis un petit broussard. Il paraît que là-bas, on voit dans les rues des blancs aux chaussures trouées, comme si c'était des sauvages de la savane. Mais je connais Cavalli à la frontière libérienne. Là-bas, j'ai zigouillé des populations innocentes, sur ses rivages, dans ses villages. C'est un pays plein d'hommes sages. Enfin, la Côte d'Ivoire, c'était un pays plein d'hommes sages jusqu'au 19 septembre. Mais le 19 septembre, les Ivoiriens, pris par le sentiment du tribalisme, se sont mis à se zigouiller comme des bêtes fauves et tous les jours à creuser et remplir des charniers. Comme tous les pays sous-développés, la Côte d'Ivoire avait connu une forte urbanisation. La densité était très forte au sud-est avec Abidjan, la capitale qui avait 200 000 habitants en 1960 et qui aujourd'hui en compte 6 millions. Et la deuxième ville du pays, c'est Bouaké. Bouaké, où nous nous rendons, dit Fanta. Bouaké compte 500 000 habitants. Cette population, comme dans tous les pays sous-développés, est très jeune, avec 42% de moins de 30 ans. Moi, Biraïma, j'ai compris pourquoi on voyait partout des enfants des rues en train de chaparder et pourquoi on se trouvait avec les morts des charniers, finalement, avec très peu de vieillards aux cheveux blancs. Les vieux, ils sont déjà tous morts ou enterrés au village, et ceux qui restent, ce sont les jeunes. Oui, les jeunes qui dansent les transes des guérisseurs, les jeunes qui cherchent à connaître les sorciers menteurs et qui deviennent voleurs. Et qui deviennent des enfants soldats. J'ai compris aussi que les Ivoiriens, eh bien maintenant, ils sont très jeunes, partout, et ce sont ces jeunes qui font la guerre. Fanta reprend. Les richesses du pays proviennent presque en totalité du sud. Le cacao, dont le pays est le premier exportateur, le café, la banane, l'ananas, les véa sont cultivés au sud. C'est au sud qu'on exploite le bois. Les industries de transformation sont implantées autour d'Abidjan, toujours au sud. Le nord et le sud, oui, ils sont en commerce, et le nord produit du coton ou de la canne à sucre, qui sont transportés aussi dans les industries de transformation. En fait, dans tout le pays, on cultive des plantes vivrières, mais c'est par la côte que se fait l'exportation. L'économie de la Côte d'Ivoire a été florissante pendant les deux décennies qui ont suivi l'indépendance, avec de très forts taux de croissance, autour de 5 à 6%. Cette exceptionnelle croissance de l'économie a marqué le pays dans tous les domaines, du point de vue de l'équipement, de la croissance de la population, de l'évolution de la société. Et tout ça avec le président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a su accompagner la croissance par des créations originales, comme la caisse de stabilisation pour l'exportation, le budget spécial d'investissement, la caisse autonome d'investissement. Tout cela, maintenant, c'est un lointain souvenir, puisque c'était vers les années 90, avant la disparition du patriarche. La conjoncture internationale s'est renversée depuis, et des initiatives malheureuses ont été tentées, et la corruption a tout ruiné. Voilà, c'était le discours de Fanta et on reprend le voyage de Biraïma et de Fanta.
Le soleil commençait à décliner. Il nous fallait trouver un lieu où roupiller pendant la nuit. Nous voilà arrivés au bord de la route à hauteur d'une femme d'Ioula et de ses enfants en train de suivre le défilé des réfugiés. Fanta la salua en d'Ioula. La femme répondit avec chaleur et spontanément, nous demanda de la suivre dans son campement à 500 mètres de la route. Arrivée dans la plantation, elle nous offrit le gobelet d'eau fraîche de bienvenue et la conversation s'engagea avec Fanta. Comme c'était bientôt le soir, la femme nous proposa le gîte. Nous l'avons accepté avec empressement. Moi, j'étais content. Je me suis mis à regarder la femme des pieds au mouchoir de tête. Rien à faire, elle était pleine de bonté. Elle nous a indiqué notre chambre et s'est mise à chauffer de l'eau pour notre douche. Le soir, après le repas pris avec toute la petite famille, la conversation se poursuivit. La femme voulait savoir si nous avions vu Sidiki Adaloa. Sidiki était le premier fils de la généreuse femme. Elle nous fit la description de Sidiki. Il était grand, toujours poli, portait toujours un chapeau mou et il avait travaillé d'abord comme boy chez un blanc très gentil. Quand celui-ci était parti, Sidiki avait été embauché par un docteur noir, Baoulé, très gentil, qui l'avait accompagné une fois jusqu'ici au campement. Le docteur était médecin à l'hôpital. Fanta expliqua qu'après leur victoire, les loyalistes avaient réuni beaucoup de Dioula et les avaient fusillés. Daloa était une grande ville. On ne pouvait pas connaître tout le monde. Fanta n'avait pas vu Sidiki. Notre généreuse hôtesse éclata en sanglots. Le matin, la femme frappa à notre porte pour nous réveiller. L'eau chaude fut servie derrière la case. Nous nous sommes douchés l'un après l'autre. Fanta, la première, ensuite ce fut la prière en commun et la bouillie de riz comme petit déjeuner. Nous avons pris le petit déjeuner avec toute la famille. Et vint l'heure de quitter le campement, de poursuivre notre chemin vers le nord. Notre pied la route. Fanta voulut remercier la généreuse hôtesse. Elle n'acceptait pas nos remerciements. Elle avait agi pour Sidiki. Parce que nous avions vu Sidiki, parce que nous étions des amis de Sidiki. Elle éclata de nouveau en sanglots. La route était dégagée. De loin en loin, on voyait un réfugié, généralement une femme avec un seau de plastique sur la tête et suivi par un enfant. Fanta commença à m'enseigner l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens semblaient d'accord sur un point. Les premiers des premiers habitants du pays furent les Pygmées. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, lorsqu'on demande à des vieux à qui appartient la terre, la réponse est toujours la même. De petits hommes au teint clair. Dans certaines régions, on les appelle les petits diablotins, vivant dans les arbres, armés d'arcs et de flèches, sont les maîtres de la terre, c'est-à-dire les pygmées. Les pygmées ont disparu de l'Afrique de l'Ouest par assimilation. De la sorte, beaucoup d'Ivoiriens de toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, du nord et du sud, sont des descendants de pygmées, des descendants des maîtres incontestables de la terre, donc eux-mêmes les maîtres de la terre. Après les Pygmées, les ethnies ayant laissé les traces les plus anciennes sont les Senoufou et les Koulango, tous deux du nord. Il est vrai que les ethnies du sud ne pouvaient guère laisser de traces observables. L'humidité et les pluies détruisent et effacent toute empreinte humaine. Maintenant, plaçons-nous dans les temps modernes, c'est-à-dire du XIe au XVIIe siècle. Aucune ethnie à l'époque ne savait si elle entrait dans l'espace ivoirien. Toutes les ethnies se sont trouvées ivoiriennes le même jour en 1904, lorsque dans le cadre de l'AOF, le colonisateur européen a précisé les frontières de la Côte d'Ivoire.
Donc en fait, ce sont les Français qui déclarent les Ivoiriens ivoiriens.
À ses débuts, la colonisation française fut pacifique. Elle procéda par des traités négociés avec des chefs indigènes, par les administrateurs Trèche-la-Plaine, Binger et de la Fosse. La Côte d'Ivoire est érigée en colonie en 1893. Et c'est à partir de cette date, de cette époque, que les Français entreprennent de conquérir l'intérieur du pays. Ils se heurtent à une résistance farouche des Gouros, des Baoulés et des Attillés. Surtout au nord, ils ont affaire à Samori, le Napoléon de la savane.
Et oui, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Il a refusé et il a dit non.
Après divers traités, de grands combats eurent lieu avec Samori. Il fut capturé par traîtrise en 1898. C'est en 1904 que les limites de la Côte d'Ivoire sont précisées et que la colonie entre dans l'Afrique occidentale française. Mais les résistances des populations ivoiriennes de l'intérieur, toujours les mêmes, les Gouros, les Baoulés, les Attillés, se poursuivront jusqu'en 1914 et même au-delà. Mais ces résistances héroïques du peuple ivoirien ne sont pas reconnues par la Côte d'Ivoire officielle. Oufouette, le premier président de la Côte d'Ivoire, avait une conception curieuse de l'histoire des peuples. Pour s'entendre avec le colonisateur, il a effacé la résistance à la colonisation. Il a parlé des vainqueurs et a oublié les vaincus. Il a laissé les vaincus dans l'ombre de l'oubli. C'est pourquoi aucune rue des villes ivoiriennes ne porte le nom des résistants ivoiriens à la colonisation. En revanche, elles affichent les noms des administrateurs coloniaux les plus cruels et racistes. La Côte d'Ivoire met entre parenthèses les souffrances et les actes héroïques des Ivoiriens pendant la pénétration et la conquête coloniale du pays. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'AOF, est dirigée par des lieutenants-gouverneurs. en 1934, le lieutenant-gouverneur maître de la Côte d'Ivoire, et reste. Reste jeune, dynamique, plein d'initiatives et nourri de grandes ambitions pour la colonie. Le sol est riche, il fait l'exploiter pour la métropole, la France. Il commence par changer la capitale pour la deuxième fois. De Grand Bassam, la capitale avait été déplacée à Bingerville. De Bingerville, elle est transportée à Abidjan. Il fait venir des paysans français pour l'exploitation du pays. Cette exploitation ne peut se faire qu'avec la pioche, la houe, la daba et la hache, c'est-à-dire à la main. Rien n'a encore été inventé dans la machinerie agricole pour la forêt tropicale. Il faut de la main-d'œuvre, beaucoup de la main-d'œuvre courageuse. On décide de démembrer la Haute-Volta, appelée aujourd'hui le Burkina. Une grande partie du Burkina est rattachée à la Côte d'Ivoire. Le gouverneur reste à les mains libres. Il commence par installer des villages de paysans burkinabés dans la forêt ivoirienne. Et surtout, il décrète le système des travaux forcés pour le nord de la Côte d'Ivoire et la partie du Burkina rattachée à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, dans le langage d'aujourd'hui, le pays d'Ioula. Le système de travaux forcés est simplement un esclavage qui ne dit pas son nom. Cet esclavage sans le nom est l'institution la plus condamnable, la plus honteuse, la plus contraire aux droits de l'homme de la colonisation. Les jeunes devenaient des conscrits qui, une fois recrutés, étaient sous bonne garde pendant des mois de travaux forcés. Ils étaient envoyés au sud dans des wagons de marchandises fermés sous 45 degrés de chaleur. Les mêmes wagons, la chaleur en moins, dans lesquels les Allemands envoyaient les Juifs aux travaux forcés pendant la dernière guerre mondiale. Le système des travaux forcés assure une main-d'œuvre de qualité et bon marché aux paysans français qu'on a fait venir de France. Ces paysans sont planteurs ou exploitants forestiers. Le système des travaux forcés assure aussi une main-d'œuvre de qualité et bon marché aux entreprises de travaux publics et de construction françaises. Les planteurs exploitants et entrepreneurs français ne se soucient pas de la santé de la main-d'œuvre. Les travailleurs crèvent comme des mouches. Quoi qu'il arrive, ils sont renouvelables tous les 9 mois. C'est la main-d'œuvre du Nord mobilisée dans le cadre des travaux forcés qui a bâti le Sud. C'est elle qui a bâti les routes, les ports, les chemins de fer, les bâtiments du Sud.
Oui, donc non seulement les travailleurs construisent le pays par l'intermédiaire des travaux forcés, mais cette utilisation de la population construit aussi l'opposition des différentes ethnies entre elles, puisqu'en fait, les ethnies du Nord sont déplacées de force pour aller travailler dans le Sud. Ensuite, entre les deux guerres, sont engagés les travaux d'infrastructure du chemin de fer Abidjan-Niger et du port Abidjan. C'est là que les travailleurs sont appelés les bouts de bois de Dieu. Les bouts de bois, oui, parce que finalement, on les utilise, on les jette et on les remplace comme des bouts de bois. Les planteurs du Sud sont victimes de graves discriminations. Ils n'ont pas droit à la main-d'œuvre venue du Nord grâce au système des travaux forcés. Donc en fait, il y a des moments où le cacao pourrit sur place parce qu'il n'est pas exporté. Il y a des discriminations vis-à-vis des travailleurs du Nord, il y a des discriminations vis-à-vis des planteurs du Sud, et tout ce qui en résulte, eh bien, c'est l'opposition, en effet, des populations, celles du Nord et celles du Sud. À partir du moment où les travailleurs africains deviennent trop chers, à partir du moment où, après la Deuxième Guerre mondiale, les planteurs français commencent à faire moins de profits, ils se résignent et en fait, on va s'acheminer vers l'indépendance. L'histoire de la Côte d'Ivoire se confondra à partir de 1960 avec l'histoire personnelle de Houphouët Boigny. Pendant la guerre, les colons s'étaient retrouvés seuls maîtres du pays. Et donc, avec la libération et le gaullisme, les règles avaient un peu changé, mais la colonisation était restée en place. Il y avait simplement des formations politiques pour certains Noirs qui devaient envoyer des représentants aux assemblées constituantes à Paris. Et puis, il y avait des nouveaux Blancs qui étaient arrivés, des nouveaux Blancs qui étaient communistes, qui se mêlaient aux Noirs indigènes qui allaient chez les Noirs. Et ils avaient essayé d'aider les organisations syndicales des travailleurs noirs. Mais en fait, les colons eux-mêmes avaient essayé de les chasser. Donc, à partir de 1960, après l'élection des députés pour la première assemblée constituante, c'est Houphouët-Boigny qui s'est présenté et ce sont ses amis qui ont axé la campagne sur la suppression des travaux forcés, bien sûr. Le Sud était moins sensible à cela. Mais dans le Nord, le nom de Houphouët-Boigny, lié à la suppression des travaux forcés, fit de lui un homme-dieu. Un homme-dieu dans l'actuel Burkina et au Niger. Dans la cosmogonie des sectes et des ethnies de l'époque, Houphouët-Boigny figurait parmi les dieux. C'est dire qu'il avait acquis une grande popularité et qu'ensuite il a pu, sans problème, devenir le président dictateur, le président le plus populaire de toute l'Afrique occidentale. Son rôle allait être primordial dans l'émancipation, mais aussi dans la corruption de l'Afrique. Ça, c'était Fanta. Moi, petit Biraïma, j'ai réfléchi et j'ai bien pensé. Finalement, il y avait deux sortes de blancs. Des blancs qui trouvaient que le nègre est un menteur fieffé et qu'il a une odeur persistante. Il faut l'éloigner et le traiter comme un baudet. C'étaient ces gens-là qui étaient les partisans de l'apartheid, qui avaient été aussi pétinistes pendant la guerre. Et puis il y en a d'autres qui croient que le nègre est bon et gentil, qui a le sourire et qu'il le faut avec lui partager. Alors ça, c'était les gentils blancs, c'était les communistes. Mais ils ne sont pas restés longtemps quand même. Les colonisateurs ont trouvé le moyen de les mettre dehors. Quand arriva la guerre froide, les communistes furent exclus du gouvernement en France et ils furent exclus de bien des colonies d'Afrique. Ils n'eurent plus personne pour parler d'application des droits de l'homme. Et on laissa donc tout le monde se débrouiller avec les méchants colonisateurs et aussi quelques hommes politiques comme Houphouët-Boigny. Le repli stratégique de Houphouët-Boigny s'est expliqué ensuite en France. Il a continué ses études, il est devenu populaire en Afrique et en 1960, il a pu être élu lorsque les indépendances sont arrivées. Voilà, c'est non pas la fin, mais le début de la fin de l'histoire racontée par Biraïma et Fanta. Les deuxième et troisième parties du roman racontent, en alternant les épisodes, d'une part le voyage de Biraïma et Fanta vers Bouaké, d'autre part, l'histoire de la Côte d'Ivoire, puis son évolution économique, puis son évolution politique. Au fur et à mesure des personnes rencontrées, Biraïma nous présente les leaders politiques des différentes ethnies et des différentes factions qui sont parvenues au pouvoir et qui finalement expliquent la guerre civile de 2002. Il s'agit d'un véritable cours d'histoire que fait Fanta et aussi un cours de politique que font Fanta et Biraïma. Et avec ce cours, eh bien, on va vous quitter jusqu'à la semaine prochaine. On va vous renvoyer à la lecture de « Quand on refuse, on dit non » pour connaître en fait le résumé de la dernière partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire par Amadou Kourouma. Et on va vous laisser quand même sur de la musique avec la chanteuse Angélique Kidjo, connue elle aussi pour être une fédératrice de l'Afrique occidentale. On va la laisser avec Bléoui, qui est un hommage aux soldats africains morts pour la France pendant les guerres et les guerres coloniales. À la semaine prochaine. Bléoui.